Nous avons trois lectures ce matin. Auparavant, nous allons invoquer le Seigneur. Prions pour que le Saint-Esprit nous éclaire. Ô Dieu vivant, tes mots sont la lumière dont nous avons besoin pour notre cheminement sur cette terre. Parle-nous ce matin et ouvre nos esprits à ta sagesse. Nous te le demandons au nom de Jésus le Christ. Amen. Le livre des Proverbes vise à instruire chacune et chacun pour acquérir justice, droiture et équité. Il vise aussi à enseigner aux naïfs la prudence et aux jeunes la connaissance et le discernement. Dans la traduction œcuménique de la Bible, nous lisons le début du troisième chapitre. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur observe mes préceptes. Ils sont longueur de jours et années de vie, et pour toi plus grande paix. Qu'amitié et loyauté ne te quittent pas. Attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras la faveur et seras bien avisé aux yeux de Dieu et des hommes. Fie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toute ta conduite, sache le reconnaître et lui dirigera tes démarches. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains plutôt le Seigneur et détourne-toi du mal. Ce sera un remède pour ton corps, un rafraîchissement pour tes membres. Honore le Seigneur de tes biens, des prémices de tes revenus, et tes greniers seront remplis de blé, tandis que le vin débordera de tes pressoirs. Ne rejette pas, mon fils, l'éducation du Seigneur, et ne te lasse pas de ses avis, car le Seigneur réprimande celui qu'il aime, tout comme un père, le fils qu'il chérit. Amen.
Selon Luc, Jésus vient de choisir ses 12 disciples. Ils redescendent d'une colline et rencontrent une foule immense. Jésus guérit des malades et enseigne cette assemblée. Nous lisons dans la Bible, en français courant au chapitre 6, les versets 43 à 45. C'est juste Jésus qui parle. Un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits, ni un arbre malade de bons fruits. Chaque arbre se reconnaît à ses fruits. On ne cueille pas des figues sur des buissons d'épines et l'on ne récolte pas du raisin sur des ronces. L'homme bon tire du bien du bon trésor que contient son cœur. L'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor, car la bouche de chacun exprime ce dont son cœur est plein.
L'apôtre Jean, séjournant dans l'île de Patmos, reçoit une révélation du Seigneur qu'il consigne dans le livre de l'Apocalypse. Il commence, sous l'inspiration du Saint-Esprit, par écrire aux sept églises du Moyen-Orient, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, puis enfin à Laodicée, lettre que nous lisons au chapitre 3 dans la Bible en français courant, à partir du verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que déclare l'Amen, le témoin fidèle et véritable qui est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. Je connais ton activité. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais l'un ou l'autre, mais tu n'es ni bouillant ni froid, tu es tiède, de sorte que je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche et j'ai fait de bonnes affaires et je ne manque de rien. En fait, tu ne sais pas combien tu es malheureux et misérable. Tu es pauvre, nu et aveugle. C'est pourquoi je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié au feu pour redevenir réellement riche. Achète aussi des vêtements blancs pour t'en couvrir et n'avoir plus la honte de paraître nu, ainsi qu'un remède pour soigner tes yeux et leur rendre la vue. Je réprimande et corrige tous ceux que j'aime. Fais donc preuve de zèle et change de comportement. Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. À ceux qui auront remporté la victoire, j'accorderai le droit de siéger avec moi sur mon trône, tout comme moi, après avoir remporté la victoire, je suis allé siéger avec mon Père sur son trône. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux Églises. Amen.
On dit parfois d'une personne qui manque d'initiative ou de créativité qu'elle n'a pas inventé l'eau tiède. Or, vous et moi réinventons l'eau tiède plusieurs fois par jour en ouvrant les robinets de la salle de bain pour doser avec soin la température de l'eau avec laquelle nous nous livrons à nos ablutions. Est-ce une erreur? Certainement pas. Toutefois, cette réinvention n'est pas toujours nécessaire. Quand j'étais enfant, je me souviens que mon oncle laissait couler l'eau du robinet d'eau froide jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment fraîche pour l'ajouter à la nisette qu'il avait versée dans son verre. De même, ma grand-mère maternelle chauffait l'eau jusqu'à ébullition sur le feu du potager pour plumer la volaille qui constituerait notre repas. J'aimerais, ce matin, vous encourager à persister dans votre engagement bénévole au service du Seigneur. Que la chaleur de l'amitié et la loyauté ne vous quittent pas. Attachez-les comme une parure à votre cou et gravez-les dans votre cœur. Fiez-vous à Dieu. Dieu notre Père, et ne vous appuyez pas sur ce que vous croyez savoir, mais dans toute votre conduite, sachez reconnaître Dieu et lui dirigera vos démarches. Ce sont les conseils du roi Salomon, auteur de la première partie du livre des prophètes. Cette chaleur qui nous habite, lorsque nous répondons d'une façon ou d'une autre à l'appel de Dieu, est produite par cette sorte de connivence qui se crée entre lui et nous. Et ceci alors que nous pensons et agissons selon sa volonté. Quand nous tendons la main à notre voisin, ça nous réchauffe. Quand nous prions pour celui qui souffre, paradoxalement, ça nous réchauffe aussi. Quand nous remercions celle qui nous témoigne son affection, ça nous réchauffe encore. Et pourtant, même en pleine canicule, il nous arrive de nous dire « j'ai froid en dedans de moi ». Nous nous sommes égarés en quittant le chemin que Jésus nous trace. On se perd dans l'ombre de la nuit. On grelotte. Le secours du Seigneur nous paraît bien loin. Voire même hypothétique. On a presque l'impression que la vie nous quitte. Dans notre détresse, on essaye de se rassurer en se disant que ça ira mieux demain. Et effectivement, le lendemain, on retrouve le bonheur de la présence de Dieu dans la fréquentation d'un groupe de la paroisse, ou dans une conversation avec un ami, mais cet agréable sentiment ne dure pas, car on retombe ensuite dans une sorte de laisser-aller où, oui, Dieu, c'est bien beau, mais on n'a peut-être pas que ça à faire. Hein. Et on s'enfonce dans la mélancolie. C'est un peu comme si on ouvrait alternativement le robinet d'eau chaude et le robinet d'eau froide. L'an dernier, nous avons remplacé le lavabo de notre salle de bain. Et à la place des deux robinets, le plombier nous a installé un levier. Un levier qu'on peut manipuler pour régler non seulement la quantité d'eau, le débit, mais également la température. On appelle ça un mitigeur. Alors peut-être que dans notre engagement avec Dieu, nous sommes un peu mitigés. Cessons de réinventer l'eau tiède. Il n'y a pas d'arbre malade qui produise un bon fruit, enseigne Jésus. Et l'homme mauvais tire le mal de son mauvais trésor. De son côté, le Saint-Esprit inspire l'apôtre Jean, lequel consigne dans la lettre à l'église à Laodicée l'exhortation du Seigneur « Je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié au feu ». Les chimistes savent bien que l'or qui a subi une calcination puis une extraction pour le débarrasser des autres métaux donne un produit sans la moindre impureté et avec le temps inaltérable. Ainsi, nous accumulerons un bon trésor. Des richesses impérissables. Pas de ces biens qu'on enferme dans un coffre-fort, mais de ces richesses qui, alors qu'on les distribue à profusion, nous enrichissent encore davantage. Mon aïeul paternel, qui ignorait probablement combien il était malheureux, misérable, pauvre, nu et aveugle, a perdu une partie de la fortune familiale en choisissant de la faire fructifier dans l'achat d'actions de compagnies de chemin de fer russes juste avant la révolution de 1917. Si bien qu'à peu près tout ce qui me reste de lui est une antique malle Vuitton qui trône dans notre salon et qui nous sert de table. À première vue, ce qui est arrivé à mon arrière-grand-père est une catastrophe. Mais avec le recul, je crois que c'est plutôt une chance. En tout cas pour moi. S'il n'avait pas fait cette bévue, je serais peut-être en train de m'arracher les cheveux pour gérer une fortune, alors que, au lieu de cela, je suis paisiblement en face de vous pour vous parler d'engagement avec Dieu. Et donc, ce bagage de grand manufacturier me rappelle chaque jour l'amour du Seigneur, grâce auquel je suis heureux, modestement prospère et surtout bienvoyant. On lit encore dans la lettre à Laodicée « Si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. » Waouh ! Là, c'est chaud bouillant, comme disent les jeunes dans leurs propos souvent décalés. Ça a l'air d'une terrible condamnation qui n'a pas son pareil dans tout le Nouveau Testament. Analysé depuis notre propre territoire paroissial, ça nous apparaît comme une grave mise en garde. Une alerte qui nous invite à changer de comportement. Salomon et Jean nous disent la même chose. Le Seigneur réprimande celui qu'il aime, tout comme un père réprimande le fils qu'il chérit. Accepte, mon fils, que le Seigneur soit ton éducateur. Si le texte est adressé à la communauté de Laodicée, il concerne bien évidemment chaque lecteur qui en prend connaissance, donc nous tous. Et lorsque le Seigneur nous réprimande, c'est parce qu'il nous aime, parce que nous comptons à ses yeux et qu'il souhaite nous voir avancer avec foi dans la vie qu'il nous accorde. Cessons donc de réinventer l'eau tiède. Chaque arbre se reconnaît à ses fruits. On ne récolte pas de figues sur un buisson d'épines, ajoute l'évangéliste Luc en citant Jésus. Il poursuit avec ceci : l'homme bon tire du bien du bon trésor que contient son cœur. Constituons-nous un bon trésor. Achetons donc de l'or purifié au feu, des vêtements blancs pour nous couvrir et un remède contre notre aveuglement. C'est l'injonction adressée aux chrétiens de cette église apocalyptique et pour mieux la comprendre, il me faut ouvrir une parenthèse. Géographiquement, Laodicée est localisée sur la rive sud du Lycos, à 6 km au nord de l'actuelle ville de Denizli en Turquie, plus précisément au sud-ouest de l'Anatolie. On y a retrouvé le plus grand stade jamais découvert dans cette région, ainsi que deux théâtres dont l'un pouvait accueillir 8000 spectateurs. À cela s'ajoutent 5 agoras, 4 établissements de bains publics, des temples monumentaux, des églises et des basiliques. Fondée par le roi Séleucide Antiochos II vers 260 avant Jésus-Christ, C'était l'une des plus importantes villes de l'ancien royaume de Phrygie. Et son nom, en grec, signifie « peuple juste ». Vous apprécierez sans doute l'ironie. Trois faits avérés par l'histoire et l'archéologie éclairent la lettre qui est adressée à Laodicée. C'était un centre bancaire extrêmement riche et extrêmement actif. De nombreux ateliers y confectionnaient des vêtements et des tapis de qualité renommée qui s'exportaient partout puisque la ville était au carrefour de trois routes commerciales très importantes. Et enfin, elle abritait dans l'un de ses édifices une école de médecine. L'Église n'est accusée ni d'immoralité, ni d'idolâtrie, ni d'apostasie. La grave mise en garde prononcée contre elle provient de l'orgueil et de l'autosatisfaction de ses membres qui les conduit à posséder tout sauf l'amour de Christ. La description sévère de son état spirituel et matériel et l'exhortation à se repentir sont en rapport avec les trois activités principales de la ville. Ils n'ont besoin de rien. Ils prétendent que leurs avantages moraux et matériels sont le fruit de leurs seuls efforts. Et c'est la seule des sept églises de l'Apocalypse à être appelée misérable. Et pourtant, l'état écœurant des Laodicéens n'a pas éteint l'amour que le Seigneur leur porte. Ces jugements acerbes ne font qu'exprimer une tendresse profonde qui devrait les conduire à la repentance. Et nous, alors ? Je vous concède que nous ne montrons pas autant de triomphalisme matériel que les chrétiens de Laodicée. Mais nous vivons souvent une relation avec Dieu que je qualifierais d'élastique, car nous nous approchons et nous nous éloignons tour à tour de la présence de notre Père. Cessons enfin de réinventer l'eau tiède. Nous nous engageons avec soin et méticulosité pour la gestion de nos affaires et de notre famille. Ce n'est pas un péché si nos greniers sont pleins et que le vin déborde de nos tonneaux, mais une bénédiction du Seigneur. Mettons alors la même application dans notre engagement avec Dieu. Ce sera un remède pour notre corps, précise Salomon. Participons pleinement au projet divin et notre Père, qui nous aime, dirigera nos démarches. Gardons en mémoire l'extraordinaire promesse, cette extraordinaire promesse faite aux Laodicéens, de même que le croyant peut demander au Christ de participer quotidiennement à sa vie transitoire sur terre, le Christ, lui, l'invitera à partager le trône que le Père lui donne pour l'éternité. peut-être pourrions-nous y avoir part, nous aussi. Nous sommes interpellés individuellement que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux Églises. Je vous rappelle aussi ce conseil de Salomon, qu'amitié et loyauté ne te quittent pas, attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Enfin, de même qu'on s'est assemblé au printemps pour délibérer des affaires de la paroisse et pour ensuite partager un repas, de même qu'à l'automne, nous nous réunirons pour la fête de notre communauté, assis autour de grandes tables, de même Jésus nous invite au festin. Écoute, dit-il, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et lui avec moi. Amen.